société, il y a beaucoup de gens qui met son canailler.
Et puis. Ça veut dire quoi, ça, aimer sa mère sans canailler?
Il y a des gens très connus, que ce soit des stars du cinéma ou de la chanson, qui aiment s'en canailler, qui aiment bien avoir certaines petites fréquentations voyous. Et puis, le pouvoir de l'argent est phénoménal aussi, c'est que vous pouvez être le plus grand braqueur du monde. Quand vous avez beaucoup d'argent, ben, il y a quand même beaucoup de gens qui vous demandent pas d'où vient l'argent, hein. Ils vous demandent qu'une chose, c'est de le dépenser. Donc, il y a des hôtels qui vous accueillent les bras ouverts. Il y a plein de portes qui s'ouvrent, comme par hasard, que ce soit des avocats, que ce soit des banquiers, que ce soit plein de choses. Voilà, le pouvoir de l'argent, ça s'appelle.
Bonjour Xavier Pessoudja. Alors, nous venons d'entendre Patrick Hendéryx, qui n'est peut-être pas le plus grand braqueur du monde, mais qui fut certainement l'un des plus recherchés par la police belge.
Oui, effectivement, Patrick Hendéryx, comme son nom l'indique, est un Belge. Je l'ai rencontré ainsi que Emmanuel Caldier, lui aussi ex-braqueur, plus connu dans le milieu sous le surnom de Manu le Gitan, un sobriquet qui se réfère évidemment à ses origines gitanes. Alors pourquoi ai-je associé ces deux personnages et deux ex-malfrats dans ce reportage? Tout simplement parce que ces deux hommes partagent un même sens de la morale, une même idée de ce qu'était leur métier. Ils ont en commun la nostalgie, vous savez, des casse bien faits, de gentlemen cambrioleurs qui commettaient leur forfait avec des armes non chargées pour ne pas avoir à tuer d'innocentes victimes. Alors Patrick et Manu sont désormais rangés. Le premier est chef d'entreprise. Il est propriétaire de plusieurs vidéoclubs à Bruxelles. Et le second...
Non, pas du tout, au contraire.
Et le second est écrivain et il a publié notamment un livre sur ses expériences carcérales, un livre qui est intitulé « Méprison » aux éditions Flammarion.
Alors son grand fait d'armes... C'est un pluriel de majesté, là, « Méprison
hein. ». Méprison, hein, c'est facile. Son grand fait d'armes à Manu le Gitan, c'est d'avoir enlevé un banquier suisse dans une malle à un magicien. Un tour de magie qu'il raconte dans ce reportage, sans bien sûr donner les noms de ses complices, car ces deux hommes, Manu et Patrick, ne sont pas des balances, qu'on se le dise.
Dis-le, Polo, tu l'as piqué la bagnole?
Non, mais je l'ai pas piqué, mais pour qui que vous me prenez?
On me l'a cédé.
Qui?
Julot, qu'on l'appelle.
Fais gaffe, Polo, Antoine est peut-être patient, mais pas moi.
Ben, à quoi je réponds? Pourquoi que vous me menacez?
Au qui la ville, ton copain?
Je le rencontrais au bistrot.
Quel bistrot?
Un petit zingue.
Du côté de la République.
Patrick Hendéryx, vous avez été l'ennemi numéro un de la Belgique.
J'ai fait partie des numéro un en Belgique. Je n'ai pas été numéro un parce que à cette époque-là, le numéro un chez nous, c'était Patrick Hamers. Mais j'ai fait partie des numéro un. J'ai commencé comme petit porte-flingue. Donc un petit porte-flingue, c'est celui qui met les pendules à l'heure, qui fait les sales besognes. Si quelqu'un doit de l'argent, ceci, c'est casser un doigt la première fois. S'il comprend pas avec un sécateur, c'est couper le pouce, des trucs comme ça, récupérer. Et puis, en fonction de votre cran, vous montez. Et voilà, je suis devenu patron. Et j'avais une centaine de garçons sous mon épaule, si on peut dire. Voilà.
Quand on dit patron, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes un peu le cerveau d'une structure? Comment ça se
passe? Je donne des ordres. À un certain moment, j'ai plus besoin de me salir les mains. Je donne des ordres, tout simplement. Puisque pour m'imposer très vite, j'ai compris comment fonctionnait le système. Mais je me suis amusé à jouer à la roulette russe pour montrer que j'en avais absolument plus rien à foutre de rien. Je pense que tout le monde sait, vous savez ce que c'est jouer la roulette russe. Je l'ai fait deux fois, une fois pour montrer qui j'étais et une seconde fois pour de l'argent. Mais c'est vrai que le monde des voyous m'a permis d'avoir des pouvoirs que la société ne m'aurait jamais donné.
Manu, vous êtes gitan, d'où votre surnom dans le milieu, Manu le Gitan. Alors pour quelle raison vous avez commencé à voler?
En fait, au départ, j'ai volé pour manger. Donc, au début, c'était un vol alimentaire.
Vous aviez quel âge?
Quand j'ai commencé à devoir m'alimenter tout seul et à subvenir à mes besoins tout seul, j'avais dans les 10-12 ans, quoi. Très vite, en fait, il s'est passé que, comment je suis passé, je faisais pas mal de cascades. J'étais avec une famille, on faisait de la cascade. Je tournais dans le mur de la mort en moto, vous savez, c'est ces murs, voilà. J'avais pas le permis, mais je conduisais les voitures tous les jours. Depuis l'âge de 10 ans, je conduis. Donc chez nous les voyageurs, c'est simple, au début même à 8 ans on peut conduire parce qu'il y en a un qui s'occupe du volant et qui est assis sur le siège et l'autre il est assis par terre, il s'occupe des pédales. Donc voilà, on se comprend, donc on est à deux à conduire, on en voit un et on voit pas l'autre quoi, je veux dire. Donc des cascades en voiture, on faisait des petits spectacles dans les villes, dans les communes qui nous recevaient, les gens étaient contents avec des vieilles voitures, on soudait les ponts pour que le taux bloquant pour pouvoir rouler sur deux roues. Enfin, c'était vachement bien au début, mais il s'est passé qu'il y a eu un problème, on a tout perdu parce qu'il y a eu un décès. Bon, c'est quelque chose de dramatique. Et donc La coutume veut que dans certaines familles, quand il y a des si, on brûle tout. Après, donc on se retrouve avec très très peu d'argent, et je me dis, écoute, on est très très bon à la cascade. J'ai mon frère de sang qui était accroché derrière la voiture, on lui mettait du gel sur lui, il brûlait, je le tirais derrière la voiture, je faisais du deux roues. J'ai dit, écoute, on va pas perdre de temps, on travaille en casque intégral, on travaille comme ça, on va aller carrément promener l'écureuil, on va carrément commencer à attaquer les caisses d'épargne, autre chose, je veux dire, on va passer à autre chose, je veux dire, on est bon sur le terrain, là on rejoint, on fait venir 150 personnes à 10 francs l'entrée, on s'en sort pas. Donc on va carrément passer à l'action.
Passer à l'action, ça veut dire quoi?
Ça veut dire passer à l'action, on prend que de la R30 TX, qui était les meilleures voitures à l'époque, hein, et on envoie la purée, commando de 4 hommes, et voilà, et on travaille proprement, casqué, cagoulé, machin, et on rentre dans les banques et on prend ce qu'ils ont. On vient pas épargner chez eux, quoi. On les épargne, mais on vient faire un retrait. Un gros retrait, quoi. À l'époque, je disais que c'était une petite promenade d'étudiants, ces genres de braquages. Bon, maintenant, aujourd'hui, un braquage est très dangereux. Mais à l'époque, vous rentriez dans les petites banques comme si vous alliez faire vos courses au supermarché. Un parcours course-poursuite à chaque fois avec les gendarmes. Les gendarmes sont en 4L, avec 4 chevaux, et moi, de l'autre côté, j'ai 15 chevaux sous le capot, avec une R30. Je veux dire, bon, à la rigueur, je suis gentil avec eux. Pendant les 50 premiers kilomètres, je reste en 3e, quoi, je veux dire. Pour qu'ils aient au moins quelque chose à raconter à leur chef et qu'ils racontent comment ils se sont fait poursuivre, quoi. Je veux dire, il nous arrivait dans des courses poursuites de faire 3 fois le tour du village ou de la ville pour montrer qu'ils faisaient bien leur travail, quoi. Donc, ils savaient très bien qu'ils pouvaient pas nous rattraper. Donc,
c'était charitable, ça, de votre part.
J'ai toujours eu un grand respect pour le gendarme et pour le policier. J'ai le souvenir d'une sous-directrice de banque qui est de permanence ce jour-là, qui est dans la salle des coffres avec moi et elle est toute tremblante et tout. Je dis, mais vous inquiétez pas, je dis, va rien vous arriver. Je lui dis, vous ferez même pas violer. Et elle me disait, non, mais j'ai peur, j'ai mes enfants et tout. Je dis, écoutez, prenez votre téléphone, appelez vos enfants. Elle me dit, mais on est en plein braquage. Je dis, vous pouvez téléphoner tant que vous parlez pas du braquage. Vous dites, vous avez besoin de parler de vos enfants. Elle me dit, c'est vrai. Je dis, voilà. Et donc, elle était là pendant que j'étais en train de finir tous les coffres tranquille, en train de parler à ses enfants. Et elle dit, oui, ils sont en train de faire des travaux à la banque, il y a un monsieur qui a un marteau piqueur, ça fait un peu de bruit. Et donc elle était là, et quand à un moment je pète un coffre qui m'emmerdait depuis un moment, ce qui était dur à péter, et là je tombe sur un truc avec des liasses de billets d'enfer, et elle était assise en tailleur en fait, et j'avais vu qu'elle avait une jupe assez longue, mais des bas. Et donc là je lui mets une liasse de billets dans ses bas, en déconnant, et j'ai dit, personne va vous fouiller quand vous allez sortir. Alors j'ai dit, pour ce que la BNP ou la machin, enfin le nom de la banque à l'époque, pour ce qu'ils vont vous donner, même pas de jour de machin, ils vont même pas vous payer le psychologue, ils vont rien vous payer du tout, etc. J'ai dit, gardez ça pour vous.
Vous avez jamais mauvaise conscience?
Qu'est-ce que tu me fais chier avec ma mauvaise conscience, hein? Mais alors, t'as rien compris, non? La presse, la bouffe, la finance, tous des pourris, t'entends? Voilà, ça c'est des assassins.
Manuel Gitan, vous avez été barbouze au service de partis politiques français et étrangers. Pour financer des campagnes politiques, on vous demandait de braquer des banques.
Il faut pas se voiler la face, hein. Il y a plein de choses qui se passent en souterrain, aussi bien les fonds secrets que les ministres touchent les enveloppes pour payer leur personnel, soit ils la partagent, soit ils la gardent, hein. Maintenant, les campagnes politiques, ça coûte très cher. Il faut de l'argent pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'achètent. Bon. Donc, il faut des fonds. On peut aussi dire qu'il y a des fois des bons donateurs. Donc ça veut dire, je suis bon donateur, par exemple, pour un parti politique, on va pas dire que ce soit de gauche, de droite, de bon donateur. Ça veut dire, je suis bon notable, je suis bijoutier, je vais être bon donateur. Ça veut dire que j'accepte que le braquage se passe chez moi. Donc, allô Manu, ok, il faut monter l'opération, on se tape ça aujourd'hui, d'accord. Donc il y aura 12 kilos d'or, il y aura tant de diamants, il y aura ceci. Est-ce que j'ai un client pour que ça parte tout de suite, ça laisse pas de traces? Oui, ok, d'accord. Donc je sais déjà ce que je vais prendre avant d'y aller. Donc l'euro donateur va toucher l'assurance, va déclarer en plus généralement 2 fois plus parce qu'il est bien assuré, et aura rendu sa quote-part en disant, voilà, je dirais que c'est un peu comme une certaine fraternité.
Manuel Gitan, votre grand fait d'armes, c'est d'avoir enlevé un banquier suisse. Alors comment ça s'est passé?
Un jour, donc, porte d'Auteuil, j'ai un de mes financiers qui je travaille régulièrement, qui me dit, Manu, je suis embêté, j'ai un gros problème avec un dossier pour une fondation d'enfants autistes. Donc c'est un banquier suisse, c'est des banquiers suisses qui ont détourné 220 000 dollars à une fondation d'enfants handicapés. Mais donc au départ, j'appelle le banquier en disant, c'est les enfants handicapés, il faut que tu payes, Coco, sinon on va se fâcher. Et il me dit, je paierai pas ceci, on est protégé, on est là, on est ceci, on est ça. Donc je monte un autre stratagème. Et donc je piège le banquier en lui disant que j'ai 5 millions de francs à placer à l'époque. Et donc je le fais venir en France. Quand il arrive en France dans cet hôtel à Orly, il arrive, il croit qu'il a rendez-vous avec un abruti qui va lui placer 5 millions de francs et qui a peur de passer 5 millions de francs en espèces comme ça. Il arrive là, il monte dans ma suite, bing boum, je le saucissonne, je lui mets les melottes dans le dos gentiment, je le couche sur lui et je lui explique pourquoi il est là. Tu dois 220 000 dollars à des enfants handicapés, tu vas payer. Et j'ai maintenant, tu vas téléphoner à ton patron pour qu'il paye les 220 000 dollars et t'explique que t'es pris en otage. Et donc, les Suisses ont été un peu durs de la feuille, ils ont appelé la police, Interpol. Et donc, voilà, et donc je négocie avec les autres autorités en disant, faites payer les Suisses et je libère l'otage. Sinon, je le libère pas. Et donc, du coup, bah, je l'ai kidnappé 6 jours, détention normale, hein, je fais détention normale, il y avait à manger pour la galette des rois. C'est vrai que je lui ai mis une balle à la place de la fève pour le faire rigoler. Je veux dire, j'ai fait du babysitting. Ce banquier, je l'ai kidnappé, j'ai fait du babysitting. C'est même pas une prise d'otage, c'est du babysitting, quoi. Je veux dire, j'étais gentil avec lui, il avait, voilà, je veux dire, même quand je lui demandais ce qu'il voulait manger, si un soir il voulait une soirée pizza, on lui faisait livrer des pizzas. Je veux dire, on a été vraiment, bon, je lui ai acheté un pyjama, machin, bon.
Qu'est-ce qui s'est passé alors, du coup? Est-ce qu'ils ont vraiment donné l'argent, finalement?
Ah, non, le pire, c'est ça, c'est que le pire, donc, si vous voulez, le seul qui s'est fait arrêter par la police réellement et qui a pris des coups, c'est l'otage. Parce qu'en fait, à 4h30 du matin, j'ai dit où était l'otage. Ils ont serré l'otage, j'aurais fait croire que c'était le chef du commando. Bon, et on n'a toujours pas récupéré l'argent, voilà.
Vous décidez de braquer une bijouterie qui est en face de la police.
Du bureau de police, oui, tout à fait. J'ai voulu mourir comme un grand truand et je me dis ben voilà, je vais monter sur un braco et je vais bien rencontrer le poulet qui va me la mettre, qui va mettre la bastos, qui va tout arrêter. Donc je fais ce hold-up en me disant je vais mourir sur ce trottoir. Le problème c'est que les poulets au bout de 8 minutes ils sortent toujours pas et que j'ai mes potes qui sont avec moi. Ils disent mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on attend et...
Vous attendiez la police?
Ben oui, moi j'attendais. Je me dis il va avoir le conflit, on va sortir les armes et ça va être parti quoi. Et au bout d'une minute, bon ben on se dit on va pas rester boire une tasse de café non plus. Et puis voilà, donc stupéfaction pour tout le monde puisque je rentre à la maison et que c'était pas ça qui devait se passer. La justice fait bien les choses puisque finalement je me fais quand même arrêter. J'en avais marre, j'avais plus ma place et il était temps que ça s'arrête.
Merci beaucoup Xavier Pestudia. Alors je trouve que ils sont sympas.
Ah, hein, ils sont très sympas.
On peut le dire.
Ah, tout à fait.
Bon, très, ajoutons qu'ils sortiraient des affaires, hein, sinon on va encore nous leur reprocher quoi.
Je vous conseille leurs 2 livres parce que ils se sont mis à table, mais bien entendu sous. Vraiment sous anonymat, puisqu'en fait, quand je dis sous anonymat, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas dévoilé un seul nom de leur complice. Parole donnée de Patrick Hendricks, c'était publié aux éditions La Presse de la Renaissance, et puis d'Emmanuel Caldier, Méprisons.